Cours de philosophie première par le Père Philippe à Saint-Jodard, le 2 novembre 89.
Je ne reprends pas l'induction de la substance et je continue. Ayant découvert ce principe, cette cause, selon la forme de ce qui est, nous voyons tout de suite la différence entre substance, principe, cause, et substance, sujet, comme la substance première. Autrement dit, distinguons bien ce qui, chez Aristote, est dit dans les prédicaments ou Lousia première, Lousia seconde. Pensez toujours, hein. Il faut qu'arriver, retenez au moins ce terme grec, Lousia. Substance. Très difficile à traduire, hein. C'est très mal traduit. Que voulez-vous, j'en peux rien. Rigueur, mais étance. Quand il faisait ce cours sur la substance en Sorbonne, mais étance n'est pas un mot français, donc c'est très difficile. C'est pas la peine. J'aime mieux mettre carrément ousia, en montrant que, vous voyez, c'est au point de vue étymologie. Ceux qui sont sensibles à ça, il faut l'être. Substance vient du latin sub. Substantia, donc, était un trait d'union. Substare, ce qui se tient en dessous. Qu'est-ce qui se tient en dessous? C'est le sujet. Et toute la scolastique décadente a pris substance comme sujet. Regardez dans un bon manuel thomiste. Vous verrez que substance est dit sujet. Donc ça correspond au prédicament substance première. Substantia. Tandis que ousia en grec dépend beaucoup plus de Platon dit ousia vient de Hestia, Hestia, la déesse qui demeure. Il dit ça dans le Cratyle. Le Cratyle de Platon est très intéressant pour les étymologies qui ne sont pas vraies, mais qui sont intéressantes. C'est les étymologies fantaisistes à la Platon. Hestia. C'est intéressant de voir que pour Platon, ousia, puisque c'est lui qui introduit ousia dans la philosophie grecque. Et il dit qu'ousia, c'est Hestia, la déesse qui demeure. Vous voyez, on est tout proche, et c'est ça qui est intéressant, on est tout proche des traditions religieuses. La philosophie chez Platon demeure toujours toute proche des traditions religieuses. La déesse qui demeure. C'est beau du reste. Hein. C'est ça, Lousia. C'est la déesse qui demeure. C'est ce qui demeure en nous. C'est pas du tout le sujet, vous voyez. Le sujet, c'est logique. Le sujet des attributions. Le sujet, l'attribution principale et première, c'est homme. Pierre est homme. Donc j'attribue homme à Pierre. Et Pierre est sujet. En bonne grammaire, Pierre, c'est le nom. Et l'attribut vient qualifier le nom. Donc le sujet est qualifié par la tribu. Ce qui prouve que le sujet est en puissance. Il a besoin d'être déterminé. Il est en puissance homme. Donc le sujet exprime à la fois la capacité de recevoir, mais aussi une indétermination. Il a besoin d'être attribué. Il a besoin de l'attribut qui vient le qualifier. Selon les prédicaments, substance première, substance seconde, et tous les prédicaments, après c'est la quantité, c'est la qualité, et ainsi de suite, la relation. Tout vient déterminer Pierre. L'ousia première, c'est le taux des dit, c'est-à-dire quelque chose qui existe, substar, ce qui est capable de porter les autres. Donc voyez, le latin est beaucoup plus logique que le grec, parce que le latin est beaucoup, c'est une langue juridique. Alors, Boès a introduit Aristote dans les latins, il a traduit les prédicats. Et en traduisant les prédicaments, il a pris ousia première, substare, substance, sujet. Et toute la scolastique a continué de garder ça. Alors que, dans le livre, Zeta, des métaphysiques, en seconde année, il faut lire le livre de Zeta. Cela n'a pas déjà lu. À la fin de la première année, on peut lire les états. Vous pouvez le lire dès la première année si vous êtes très calé. Et n'oubliez pas que Avicenne a lu 50 fois le livre de Zeta pour le comprendre. Et Avicenne était considéré comme le génie de son époque. Alors, voyez, il a lu 50 fois. Il faut lire, nous, 100 fois. Alors, vous pouvez commencer, n'est-ce pas? Et le lire en grec. Hein. Alors, si vous pouvez le dire. Parce que Tricot, il tricote toujours par rapport... Oui, il faisait ça dans le train. C'était un ingénieur qui aimait Aristote et qui a traduit. Mais ça ne sent pas très bien. Il n'avait pas du tout... Il ne connaissait pas saint Thomas, du reste. Très mal. Alors, il dit qu'Ousia, il fait des fautes énormes. Ça fait rien, ça aide d'avoir le français. Parce qu'alors, on a le français, on a le latin, la vieille traduction latine, puis on a le grec. Alors, le livre Ousia, le dernier chapitre, chapitre 17. Donc, si vous n'avez pas le temps, vous prenez tout de suite le chapitre 1 et le chapitre 17. Je ne dis pas qu'en faisant ça, vous lisez le livre Zeta. Hein. Vous faites comme pour les romans feuilletons. N'est-ce pas ? Le point de départ, l'intrigue et le terme. Et ça va très bien. Ça se termine toujours très bien. Alors, chapitre 17, ça se termine très bien. Et dans le chapitre 17, vous voyez que Ousia, pour Aristote, c'est arché. Arché, c'est le principe. C'est la cause, Aïssia. Donc, la substance n'est plus sujet. Elle est principe dans l'ordre de l'être. C'est pas tout à fait la même chose, vous voyez. Et forcément, on a gardé le terme substance. C'est très curieux, ça. Vous voyez, quand on passe d'une langue... d'un génie à un autre génie, d'une culture à une autre culture. Pas oublier qu'Avicenne habitait l'Espagne. C'est le mort de l'influence arabe et de l'islam. Mais il croyait en Dieu créateur. Donc, point de vue, pour Aristote, la substance, c'est arché, aïsia, principe. Alors voyez, tout de suite, la différence des prédicaments, qui est le livre de l'attribution des prédicaments. Les catégories, c'est la même chose. Hein. Catégorie et prédicament. C'est latin et grec. Alors, le livre des attributions. Pour saint Thomas, le livre des prédicaments est un livre logique. Tandis que le livre Zeta des métaphysiques est un livre philosophie première. On est en philosophie première. C'est-à-dire en métaphysique. Et dans le livre Zeta, au chapitre 17, la substance, elle est source, principe, cause. Cause de ce qui est. Alors comprenez bien, la cause et le principe, c'est parfaitement déterminé. Donc ça ne peut pas être sujet. Toutes les autres déterminations proviennent de la substance. Elles sont attribuées à la substance, mais elles proviennent de la substance. Donc, première distinction qu'il faut bien comprendre, et toutes les confusions de la scolastique décadente proviennent de là. Confusion entre la logique et la métaphysique. Confusion entre les prédicaments et le livre Zeta d'Aristote. Ça, il faut essayer de le comprendre, c'est facile. Substance, sujet, substance, principe. Principe, cause, traduisons dans un langage poétique, source. Tout principe est source, toute cause est source. D'une source. Parce que le principe, c'est ce au-delà de quoi je ne puis rien découvrir. C'est ça la source. Quand vous découvrez une source, vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous suivez l'eau, hein, puis vous trouvez la source. Ça jaillit. Alors la substance, dans l'ordre de l'être, dans l'ordre de ce qui est, elle est première. Elle est première. Et c'est ça qui est intéressant dans le livre des États, c'est qu'Aristote cherche tous les premiers pour découvrir le premier dans l'ordre de l'être. En ce sens-là, le livre des États est génial. Et le livre, c'est au chapitre 17 qu'Aristote montre l'induction. L'épagogé. L'induction, c'est le passage, c'est la remontée vers la source. Oui. Ceux qui sont alpinistes aiment l'induction. Ceux qui sont dans un pays de plaine, en dessous du niveau de la mer, hein, c'est pas la même chose. Alors, ils doivent construire des digues, tandis que les autres, ils cherchent la source. En Suisse, on monte pour découvrir la source du Rhin, et la source du Rhône. Et on voit que c'est pas très loin. Et ça fait deux fleuves tout à fait différents. Parce que si on fait une petite erreur à la source, il y a d'immenses conséquences après. Et l'épagogé, c'est remonter à la source. C'est un effort qu'on fait pour dépasser tout ce qu'on saisit immédiatement pour saisir la source. C'est pour ça que c'est une activité très difficile. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, personne n'induit. Il faut essayer de comprendre ce que c'est. Donc, première différence entre la substance première, sujet, au niveau des prédicaments, au niveau logique. Substance, principe. Une fois que j'ai dit ça, je peux dire que la substance est en première dans l'ordre de l'être, va de fait toujours exister par elle-même. Et c'est ce qu'on appellera l'aspect de la subsistance. Alors ce terme subsistance est né en philosophie grecque chez les néoplatoniciens. Aristote ne l'emploie pas. Plotin l'emploie. Subsistance. Hypostase en grec. Alors voyez, hypostase, hypostasis. C'est substance. Et ça n'a pas du tout la même signification. Alors vous voyez tous les déraillements. Parce que hypostasis, pour Aristote, hypostasis, Aristote est fils d'un médecin. Il ne faut pas l'oublier. Le père d'Aristote est médecin. Hypostasis, pour Aristote, il le dit textuellement, c'est le dépôt de l'urine. Oui, très bien, le médecin. Hypostasis, ce qui se tient en dessous. Quand vous mettez de l'eau trouble, vous la laissez reposer, il y a de la poussière en dessous, de la terre en dessous. Hypostasis, ce qui est en dessous. Eh bien, le mot hypostasis, chez Aristote, fils de médecin, on voit très bien ce que c'est. Chez Plotin, hypostasis devient le terme le plus digne de la substance. Oui, c'est très intéressant comme exemple d'étymologie. C'est pour voir comment la philologie, je crois que c'est le terme le plus extraordinaire au point de vue. C'est pour ça que c'est amusant. Parce que hypostasis, c'est pour Plotin, c'est l'un et hypostase. C'est Dieu. Donc c'est le terme le plus digne. C'est ce qui exprime la dignité de la personne. Hypostasis. Elle se tient par elle-même. Ah, vous voyez, ça a commencé par le petit vieux. Ça se tient par soi-même, ce qui se dépose en le fond. Parce qu'il n'y a rien d'autre pour le recevoir. Hein. C'est le petit vieux, dans le fond, il se tient par lui-même, puisqu'il n'y a rien d'autre en dessous. C'est devenu la dignité de la personne. Je trouve ça extraordinaire, moi. Il faudrait regarder, quelqu'un qui aime la philologie, il faudrait regarder tous les intermédiaires. Comment on est arrivé de ce terme hypostasis, le dépôt de l'urine, à hypostase, la dignité de la personne. Et en quelques siècles, hein, et dans le monde philosophique, et dans le monde grec, Plotin, 2 siècles après Jésus-Christ, Aristote, 5 siècles avant, ça fait 7 siècles. En 7 siècles, voyez l'évolution. C'était étonnant au point de vue philologique, l'évolution. Ce terme est passé du dépôt fondamental, le fondement, à la dignité de la personne. J'aime beaucoup ça, moi. Je trouve ça admirable. Pour montrer qu'il n'y a pas de philosophie de la philologie. Autrement, on fait des bêtises. L'usage des mots, il faut le prendre tel qu'on l'emploie. Et ce mot, hypostasis, est passé chez les pères de l'Église. L'union des deux natures divines, des deux natures dans le Christ, nature divine et nature humaine, selon un mode hypostatique, l'union hypostatique. C'est hypostase. L'union dans la personne. Hypostase. Chez les pères de l'Église, hypostase signifie la personne. Donc, le terme de Plotin. Et chez saint Thomas, hypostasis se traduit subsistentia, la subsistance. Enfin, c'est très curieux. Il faut s'amuser un petit peu à ça, parce que c'est intéressant de voir ça. Bon, le dépendre de la substance, c'est de subsister. Tandis que, ce que nous allons voir tout de suite, le propre des accidents, des modes seconds de ce qui est, ce n'est pas de subsister, mais d'inhérer. C'est-à-dire d'être relatif à quelque chose d'autre. La substance subsiste. Les accidents inhèrent. Il faut comprendre ce langage. Hein. C'est-à-dire ils sont relatifs à. La qualité ne subsiste pas par elle-même. Elle est relative au mur. Le blanc du mur. Mais quand vous dites la blancheur, vous donnez à cette forme de la considérer pour elle-même, donc de la faire subsister par votre intelligence. Donc, retenez ça, que le propre de la substance est de subsister, parce qu'elle est première, donc elle ne s'appuie sur rien d'autre, c'est ça que je veux dire. Elle ne s'appuie sur rien d'autre. Elle peut par elle-même exister. Cause de ce qui est. Principe de ce qui est. Alors comprenons bien aussi, quand nous passons de la substance principe à la subsistance, nous passons de l'interrogation du ti esti, qu'est-ce que c'est ? Elle est principe. À la manière dont elle existe. Ce qu'on dit en grec, le pos, le comment. Comment la substance existe-t-elle ? Elle subsiste. En elle-même, par elle-même. Je ne vais pas plus loin, puisque nous devons aller plus loin cette année-ci. Tout de suite, dès que nous découvrons la substance, nous voyons quel est le noyau fondamental de ce qui est. Le noyau dans l'ordre de l'être. Elle est ce qui est radical. Elle est fondement. Elle est vraiment fondement dans l'ordre de l'être. Hypostasis. Tout l'être repose sur cette déesse qui demeure, selon les traditions religieuses. Ça ne te dira jamais que la substance est Estia et la déesse qui demeure. Parce que chez Aristote, on se dépouille beaucoup des traditions religieuses. C'est en ce sens-là qu'on dira qu'Aristote est le premier rationaliste. Ce qui est faux, hein, ce qui est faux. Mais on comprendra très bien dans Ré, qui donne l'histoire de la science, il montre qu'Aristote est le premier qui se sépare totalement des traditions religieuses pour uniquement chercher le logos, ce qui est rationnel, ce qui est intelligible. Et comme les Français confondent le rationnel et l'intelligible en Sorbonne, on dira que logos, c'est entrer dans l'aspect rationnel, alors que c'est faux. C'est entrer dans l'intelligibilité profonde des choses. Ce qui n'est pas la même chose. Arriver petit à petit à distinguer le rationnel et l'intelligible. C'est très important. En faisant ça, vous dépassez l'aspect rationnel pour saisir ce qu'il y a de profond. Un principe n'est pas rationnel. Il est intelligible. C'est pas la même chose. C'est à la racine de tout le rationnel. Dès que je découvre la substance, je divise ce qui est en tant qu'être en substance et qualité, en substance et prédicament. Découvre la substance par l'induction. production, et en découvrant la substance, Ousia, je mettrai constamment les deux, hein, pour que vous vous habituiez à tout de suite penser que substance est Ousia. Je divise par la substance, je divise ce qui est en tant qu'être. Divise ce qui est en tant qu'être en substance et qualité et quantité et relation. Donc ce qui est divisé. La première division de l'être. De ce qui est. La substance est première, principe, la qualité est seconde. Ce qui se traduira en logique, en disant que la qualité est attribuée à la substance. Ce qui se traduit en ordre métaphysique, la qualité est accident. La quantité est accident. C'est-à-dire, elle est seconde. Alors il faut étudier au plan métaphysique, nous allons le faire très vite, qualité, quantité, relation, qui sont des modalités particulières d'être. Vous voyez, l'être se divise en substance et qualité. Qu'est-ce que c'est que la qualité ? C'est facile la qualité, c'est très facile à comprendre. Parce que la qualité, vous la touchez. Vous la voyez, la qualité. Je touche cette table. Elle a des qualités, cette table. Hein? Elle a des qualités. Elle est blanche. Elle n'est pas très chaude. C'est une qualité. Froide. Elle est polie. Oh oui. Les qualités, c'est la manifestation de l'être. L'être se manifeste à travers les qualités. Alors, ça peut être aussi, vous voyez, l'apparence. Si je ne regarde que les qualités, je n'approfondis pas. Je ne vais pas plus loin. Les qualités manifestent ce qui est à mes sens. Par mes sens. C'est ce que je saisis directement par mes sens. Mon intelligence saisit les qualités à partir de la substance. Mes sens saisissent directement la qualité, ce qui se manifeste. C'est par les qualités que je saisis la substance. Mais c'est grâce à la substance que je saisis en profondeur ce qu'est les qualités. Vous voyez, le flux et le reflux. Par les qualités, je pénètre. C'est vrai, quand vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas, qu'est-ce que vous voyez en premier lieu ? Son regard. Et si vous restez uniquement là-dessus, c'est une impression. Pour cette personne, elle a un regard. Ce qu'elle doit être intelligente. Puis vous apercevez que derrière le regard, il n'y a rien. Ah, vous vous trompez, n'est-ce pas ? Il y a les apparences. Il y a des gens qui ont des apparences extraordinaires. Le paon, comparativement au dindon. Ben, je sais pas. Dans une basse-cour, le paon, c'est quand même quelque chose de vieux. Surtout quand il fait la roue. Vous êtes ébloui. Tandis que le gros dindon, le dindon sera jaloux du paon, etc. Alors, il y a les apparences extérieures, ce qui se manifeste. Et puis, l'être en profondeur, la substance. Il faut bien comprendre ces deux aspects-là. C'est très important. Il faut saisir que certains philosophes font une métaphysique de la qualité. Je crois, entre nous, il ne faut pas le répéter, je crois entre nous que Heidegger, c'est la métaphysique de la qualité. Il ne va pas plus loin. Il dit ça avec magnificence. C'est la métaphysique de la qualité. Tout est métaphysique un peu esthétique ou esthétisante reste des métaphysiques de la qualité. L'artiste, lui, en tant qu'artiste, il saisit la qualité et il la met en pleine lumière. Ça, c'est le prof de l'artiste. C'est pour ça que quand on parle d'une peinture métaphysique, vous voyez, c'est assez curieux, ça. C'est assez intéressant du reste de voir ça. Une peinture métaphysique, qu'est-ce que c'est? C'est la manifestation éclatante de la qualité. La lumière, c'est la qualité des qualités. La lumière. Mais c'est une qualité, c'est pas la substance. Mais c'est la qualité, c'est ce qui donne le chic à tout. C'est vrai, ça transforme tout, la lumière. Ça transforme tout. Les couleurs sans lumière. Puis subitement, vous mettez une lumière dessus. C'est extraordinaire. Ah, c'est très intéressant de voir ça. Vous voyez, la qualité et la substance. La substance est source des qualités. Donc, il y a les qualités visibles et il y a des qualités invisibles. Donc, la qualité, ça peut aller assez loin. Quelle est la qualité invisible? La qualité invisible, c'est la vertu. La vertu est une qualité. Arrêté, en grec, c'est une vertu. Un ouvrier qualifié, c'est un ouvrier habile. Il fait ça en 5 minutes, alors que le pauvre type qui commence, il mettra 1 heure. Il saura exactement où il faut aller. Le mécano qualifié. Et le mécano non qualifié, novice. Et on dira, le moteur, il marche plus. Il cherchera. Il commencera à tout déviser. Tandis que le vrai mécano qualifié, il écoute. J'ai vu ça en Italie. C'était admirable. On était en panne, justement. Assise. Il y avait un petit mécano, là. C'était pas un franciscain, mais il était tout comme un franciscain. Alors, il commençait à pas écouter le moteur, exactement comme un médecin qui écoute le cœur. Allez, faites un peu marcher. Alors, on fait marcher. Écoute. J'ai jamais vu ça en France. Et j'ai eu là le mécano. Vous voyez, l'art du mécanicien qui voulait guérir le moteur. Alors, il essayait d'écouter le pouls. Puis, tout de suite, ah, ça doit être ça. Et en effet, c'était ça. Il aurait pu se tromper, mais ça va y l'écouter. Le mécanicien, qualité, la qualité d'une intelligence pratique, la qualité de l'homme prudent. Il attend le bon moment. C'est ça le bon moment. C'est pas celui qui se précipite tout de suite. Non, non, il attend le bon moment. La sagesse, la qualité des qualités. Vous voyez, la lumière et la sagesse. La lumière. C'est la qualité des qualités au point de vue de ce qui apparaît, de ce qui est visible. Et la sagesse, la qualité la plus profonde. C'est la qualité de la qualité, la sagesse. L'intelligence, c'est une qualité, c'est une puissance. Alors, le domaine des qualités, c'est un vaste, extraordinaire. Prenez les deux extrêmes, lumière. Et sagesse. Entre deux, prudence, vertu, la souplesse, l'habileté. L'art est une qualité. L'art est une qualité. Un habitus. Tous les habitus sont des qualités. Donc, c'est un domaine extraordinairement étendu, la qualité. Alors, quand je dis que la philosophie de Heidegger s'arrête à la qualité, ça va quand même très loin. Ça dépasse ses apparences. Pour entrer. Thalès qui demeure. Heidegger, c'est notre Platon. C'est le Platon moderne. C'est le Platon moderne qui donne des choses très étonnantes, qui manifeste les choses, dévoile l'être. Prenez, l'être n'a pas besoin d'être dévoilé par Heidegger. Il est. Mais je comprends très bien que si l'être, c'est la qualité, alors dévoilé. Parce que le propre de l'être, le propre de la qualité, c'est de se dévoiler, c'est de se manifester. Alors, c'est la présence. La présence, c'est la qualité. C'est vrai, on est présent à quelqu'un parce que notre intelligence est attentive à lui. Parce que notre cœur s'ouvre à lui. Alors on est présent. L'amour, l'amour est qualité. La volonté est qualité. Donc ça va très loin. Tout le domaine psychologique est du domaine des qualités et des dispositions. C'est pas du domaine de la substance. Donc comprenez bien qu'il y a une philosophie de la qualité. Il y a une métaphysique de la qualité. Mais pour nous, la philosophie et la métaphysique de la qualité est tout entière relative à la philosophie de la substance. Il y a la quantité. Toutes les qualités visibles ont un support quantitatif. La quantité, vous ne la touchez pas tout de suite, immédiatement. Vous la touchez à travers les qualités. Vous n'avez jamais touché directement la quantité. Vous la mesurez, la quantité. C'est du domaine du mesurable. Tandis que la qualité, c'est du domaine de l'intuition. On la saisit, on ne la saisit pas. L'art, c'est comme ça. Celui qui commence à mesurer, ça prouve qu'il a de la peine à comprendre. Alors il mesure. C'est plus facile de mesurer. Vous voyez ? Esprit de finesse, esprit de géométrie. L'esprit de géométrie, c'est mesurable. Tout mesurable. C'est pour ça que, du point de vue métaphysique, la quantité, c'est le domaine du divin. Tandis que la qualité, c'est le domaine de l'indivisible. La qualité comme telle est indivisible. Vous ne la mesurez pas. Mais vous croyez mesurer la qualité par le divisible. Oui, la lumière, c'est indivisible. Alors on dira tout de suite, mais non, on mesure la lumière. Il faut mesurer la lumière parce que la lumière implique un support quantitatif. Mais quand vous mesurez la lumière, vous ne mesurez pas la lumière. Vous mesurez son support quantitatif. Donnez la définition physique de la lumière à un artiste. Il va rigoler. Mais c'est pas ça du tout la lumière. C'est pas ça du tout. La lumière, je la vois. Je la saisis. Il y a une lumière de l'Orient, il y a une lumière d'Occident. La lumière est différente à chaque pays. Elle donne carrément quelque chose de différent. C'est pas la même chose du tout. La lumière est différente dans les hémisphères. La lumière est différente quand on passe de l'Europe en l'Amérique. Le Gulf Stream, ça change la lumière. Et c'est très curieux, ça. Ce qui montre bien, c'est indivisible. La lumière, c'est pas mesurable. La lumière, qualité. Mais le support de la lumière est quantitatif. Vous pouvez mesurer. Toute qualité implique toute qualité du monde physique. Implique un support quantitatif. Qui est divisible, qui est mesurable. Le divisible est mesurable. Tandis que la qualité très important. Vous voyez tout de suite la différence de connaissance, de la qualité et de la quantité. Et vous verrez tout de suite les esprits qui sont de l'ordre de la quantité et les esprits qui sont de l'ordre de la qualité. Il y a un partage des eaux très étonnant. Très étonnant. Il y a des gens qui ne sont en sécurité que lorsqu'ils sont mesurés. Alors là, ils sont en sécurité. La quantité, ils s'appuient dessus. C'est vrai, c'est très heureux la quantité. Vous asseyez. Vous asseyez. Vous êtes assis. Vous êtes en sécurité. La qualité, vous ne pouvez pas vous asseoir dessus. Vous la voyez, vous la touchez, vous l'entendez, vous la goûtez. Et c'est toujours la même question. Est-ce que vous aimez mieux beaucoup de vin qui est à piquette ou une bouteille de grande qualité? Il ben, y en a qui aiment mieux le petit tonneau. Ils sont heureux. Et puis d'autres, au contraire, non. La qualité. Vous en aurez moins, mais la qualité. Il y a un partage. Et le monde économique nous fait glisser vers la quantité. Une culture économique nous fait glisser vers la quantité. La science, laissée à elle-même, sans l'art et sans la philosophie, nous fait glisser vers la quantité. Un monde de savants nous fait glisser vers la quantité. La science en elle-même, c'est une qualité. Mais la science regarde le domaine de la quantité. Parce que la science a comme procédé de connaissance la mesure. Et donc, elle matérialise, elle quantifie. La quantité présuppose la matière. Vous voyez ? La qualité se prend du côté de la forme. La quantité se prend du côté de la matière. Il y aura toujours une certaine jalousie entre la forme et la matière, entre la quantité et la qualité. C'est très curieux, ça. Les savants et les artistes, ça fait deux mentalités très différentes. Je vous dis, c'est ce que Pascal dit, esprit de finesse, esprit géométrique. Alors, il y a des mathématiciens qui ont un esprit très qualitatif. Alors, ils comprennent. C'est pour ça qu'ils ont un sens de l'art. Mais il y a des mathématiciens qui n'ont que le sens de la quantité. Poincaré, c'est un matheux qualitatif, l'intuition. D'autres mathématiciens ont un sens purement quantitatif. La logique. La logique tend vers l'aspect quantitatif. Toujours. Tandis qu'au contraire, l'analogie pure, c'est la qualité. Et poussé jusqu'au bout, vous avez donc la qualité qui me conduit à l'analogie. Et la quantité, le divisible, qui me conduit à la dialectique. Un esprit dialectique conduit toujours vers la quantité. Un esprit analogique conduit toujours vers la qualité. Il faut montrer l'importance de ça. Qualité et quantité. Et la substance est au-dessus. La substance est source